Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous être déplacés si nombreux pour célébrer le 100e anniversaire de la naissance de Jean Piquet. En présentant l'héritage de Jean Piquet, je voudrais apporter un éclairage complémentaire de celui donné par Yves Sandeau, Jean-Luc Blondel et Jean-Marie Henkers, en me focalisant sur l'héritage associé non pas à Jean Piquet lui-même, mais au concours Jean Piquet. Avant toute chose, j'en appelle à la bienveillance des membres de la famille Piquet, que je remercie profondément pour leur présence ici ce soir. Au fil des années, le concours Jean Piquet a été de plus en plus souvent désigné comme le Piquet. Et je mesure à quel point il peut paraître incongru de voir son patronyme associé à un adjectif. Mais après tout, ne dit-on pas aussi le littré ? Et puis il semble que ce soit finalement le destin de tous ceux dont le nom a été donné à un concours de droit. Le Jessop, le Rousseau, le Cassin, le Telders et donc le Piquet. Qu'est-ce que le concours Jean Piquet ? Ou pour reprendre le raccourci que je mentionnais, qu'est-ce que le Piquet ? Dans cette salle, peu de personnes seraient certainement incapables de répondre à cette question. Nous pourrions en rester à des éléments de définition générique. La plus importante compétition en droit international humanitaire permettant à chaque année à environ 150 étudiants de s'affronter pacifiquement sur le thème du droit humanitaire au travers de jeux de rôle et de simulations. Je pourrais vous parler du Piquet en utilisant de nombreux angles. Sous l'angle historique, en vous parlant de ce jour de 1988, nous avons lancé l'idée, reprise au vol par l'Institut Henri Dunant, qui représentait alors, sous l'influence encore très présente de Jean Piquet, la pensée la plus innovatrice sur la diffusion du droit international humanitaire. Je pourrais vous parler de cette première édition, en cette année 1989, qui restera dans l'histoire du monde comme une année de grands changements et qui restera dans notre propre histoire personnelle comme l'année où cette formidable aventure a débuté. Cette première édition où nous étions si fiers d'accueillir 4 équipes à Clermont-Ferrand et d'assister à la victoire de l'Université libre de Bruxelles, première de 4 victoires au total, record inégalé depuis. Je pourrais vous parler de cette deuxième édition à Montpellier où la présence d'équipes canadiennes nous semblait le plus grand exotisme. Je pourrais vous parler de cette troisième édition au moment de la guerre du Golfe, dans la splendeur de la Villa Plantamour au bord du lac. Et pour chacune des éditions, je pourrais partager mes souvenirs pendant des heures, suscitant très probablement votre ennui, même si vous pourriez aimer certaines des anecdotes. Pensez donc, déjà un quart de siècle avec une édition par année. Je pourrais aussi vous parler du Piquet sous un autre angle, celui de ses objectifs. Ils sont au nombre de 3. Ce que nous voulons permettre aux participants au concours, c'est de concourir, d'apprendre et de rencontrer. Concourir, c'est souvent ce que veulent le plus les étudiants. Gagner est souvent leur objectif principal. Nous ne manquons jamais de leur rappeler qu'avec 48 équipes, les statistiques sont contre elles, puisque leur probabilité purement mathématique de gagner est autour de 2%. Pour nous, l'essentiel n'est pas là, même si l'aspect compétition apporte une grande saveur à l'événement. L'essentiel, c'est certainement plus encore l'apprentissage pour des étudiants qui, en quelques mois, absorbent une quantité incroyable de concepts de droit international humanitaire en sortant le droit des livres, selon l'expression consacrée, et qui, au-delà des connaissances purement juridiques, progressent de manière impressionnante pendant la semaine même du concours en termes de savoir-faire. La gestion du stress, la prise de parole, le travail d'équipe, la capacité d'écoute et d'argumentation sont des talents que le Piquet vise à développer et qui ne font, comme vous le savez bien, pas toujours l'objet d'enseignement dans les universités, alors que ce sont là des éléments fondamentaux d'un parcours professionnel. L'essentiel serait alors l'apprentissage ? Peut-être, ou peut-être pas. La rencontre, le troisième de nos objectifs, disputerait aisément la première place au sein des priorités. Avoir souvent vu des étudiants de pays officiellement considérés comme ennemis s'asseoir ensemble à une table et passer du bon temps est une satisfaction inégalable. Voir des étudiants sortir pour la première fois de leur pays et faire face au choc culturel du Pictet et du monde miniature qu'ils représentent, quelle belle joie pour nous tous. Quelle belle contribution au principe fondamental d'humanité, favoriser la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre les peuples. Je pourrais aussi vous parler du Pictet sous l'angle des chiffres. 26 éditions, 2683 étudiants de plus de 90 pays, de plus de 200 universités, écoles militaires ou instituts de formation. Plusieurs milliers de pages de cas pratiques, y compris des documents pour les équipes, des consignes pour les jurys, des grilles de notation, des briefings. Des milliers et des milliers d'heures de formation. Des dizaines d'universités ayant reconnu le Pictet comme pouvant donner lieu à des crédits universitaires. Des milliers d'heures de volontariat pour tous ceux qui, depuis un quart de siècle, donnent du temps et de l'argent pour que le concours existe. Je pourrais prendre un autre angle, celui de l'évolution du droit humanitaire au cours de la même période. Entre les cas pratiques que devaient résoudre les étudiants en 1989 et ceux qui sont présentés en 2014, bien des choses ont évolué. Beaucoup de nouveaux traités, tant de nouvelles résolutions, une importance nouvelle donnée au droit coutumier, loin de l'importance résiduelle que beaucoup lui attribuaient il y a 25 ans, et surtout de la jurisprudence, en particulier des juridictions internationales. En termes de préparation, les étudiants de 1989 se contentaient du « que sais-je » de Maurice Torelli. Et ils sont maintenant beaucoup plus confrontés au Sassoli-Bouvier. Avec, vous en conviendrez, une certaine différence dans le volume de préparation. Le niveau des connaissances requises a augmenté, l'exigence des jurys également. Je pourrais aussi mentionner les enfants du Pictet, pas tellement les enfants de deux personnes s'étant rencontrés dans le cadre du concours, encore que la liste serait longue, mais plutôt les concours créés sur le modèle du Pictet, au niveau national ou régional, souvent avec l'appui du CICR ou d'une société nationale, la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Je pourrais aussi vous parler du Pictet en tant qu'organisation, composée de volontaires face à une idée devenue plus grande qu'eux, de volontaires qui ont adopté ce principe essentiel que si quelque chose ne marche pas, il faut changer. Et que si quelque chose marche, alors il faut changer pour faire encore mieux. Je pourrais vous parler du Pictet sous l'angle de la diversité. Les tuteurs qui sont assignés aux équipes pour les aider à progresser sur les aspects non juridiques peuvent se féliciter. Rien de plus banal pour un tuteur ou une tutrice en 2014 de se dire qu'il ou elle va aider 4 équipes, par exemple du Japon, d'Israël, du Zimbabwe et de l'Académie de l'armée de l'air américaine. Je pourrais aborder le Pictet sous un angle encore différent et me demander à quoi il ressemble vu de l'extérieur. Une des difficultés que rencontrent souvent les participants au Pictet est de rentrer chez eux et d'expliquer ce qu'ils ont fait. Pensez donc. Ils doivent expliquer qu'ils ont passé une semaine dans un endroit qui était peut-être situé aux antipodes de chez eux, sans sortir d'un hôtel, chargé de kilos de notes et de livres, souvent en costume ou en tailleur, quelquefois en treillis, à argumenter pendant des heures sur un conflit qui n'existe pas, dont vous avez vu les cartes sur les écrans derrière moi. Drôle de passe-temps. Et si vous n'êtes jamais venu au Pictet, vous demanderez peut-être en effet à quoi ça ressemble et pourquoi j'en parle avec autant de passion, même si vous soupçonnez certainement que dans cette affaire, pour une fois, je ne suis pas tout à fait neutre. Laissez-moi vous mentionner un dernier angle de description du Pictet, son impact. Sur les près de 2700 anciens participants, beaucoup travaillent aujourd'hui dans le domaine humanitaire, dans les organisations internationales, dans les juridictions pénales internationales, dans les services diplomatiques, dont deux ici à la mission suisse rue de Varambé, dans le domaine de la solidarité internationale, dans les services juridiques des forces armées. Un chiffre de 500 personnes me semble une estimation très réaliste et même probablement assez basse. Un quart de siècle plus tard, ou même un peu moins, les étudiants sont devenus des décideurs. Et le fait que ces pictéistes, comme on les désigne, est une formation en droit international humanitaire, est tout sauf anodin. Prenez une table des matières de la revue internationale de la Croix-Rouge. Pratiquement tous les numéros incluent une contribution d'un ou d'une pictéiste ou d'une personne qui a assisté au concours. Promenez-vous au Palais des Nations, promenez-vous dans les allées d'une conférence internationale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, dans les juridictions internationales de La Haye, aux alentours de la 44e rue à l'est de Manhattan, ou tout simplement dans le bâtiment où nous sommes accueillis aujourd'hui. À chaque fois, des pictéistes, vous en trouverez beaucoup, actifs, très actifs dans la promotion du droit et des valeurs humanitaires, dans le travail visant à accroître le respect du droit et de la personne humaine. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont, c'est aussi une part importante de l'héritage Jean Pictet. Et nous disons avec eux, une bonne partie du mérite vient du fait qu'ils étaient, que nous étions tous assis sur l'épaule d'un géant. Je vous remercie.